France Culture. La science CQFD, Natacha Trioux.
À la question « Où vivons-nous ?», nous pouvons ajouter à notre adresse cosmique la bulle chaude locale dans laquelle se trouve notre système solaire. Pourquoi l'étude de ce cocon de gaz est-elle importante ? Les premières cartes des rayons X des années 70 nous ont montré, à la surprise de tous, que nous sommes dans un environnement de gaz chaud et que le gaz entre les étoiles est un vrai jacuzzi. Depuis des décennies, on sait que notre système solaire est au cœur d'une super bulle, une structure tridimensionnelle de gaz d'environ 600 années-lumière de diamètre et que notre galaxie en héberge d'autres. Des chercheurs viennent de découvrir qu'il existe, au sein de notre bulle, des tunnels d'évacuation qui la relient à d'autres bulles dans d'autres régions galactiques. Bulle locale, un jacuzzi dans l'espace. Isabelle Grenier, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes professeure en astrophysique à l'université Paris Cité, chercheuse au CEA, au sein du laboratoire AIM et lauréate du prix CNES Astrophysique et Sciences Spatiales de 2022. Et avec nous en duplex de Toulouse, Katia Ferrière, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes directrice de recherche CNRS à l'Institut de recherche en astrophysique et planétologie de Toulouse. Merci à vous deux d'avoir accepté notre invitation en direct sur France Culture. Et merci à vous qui nous écoutez en direct ou en podcast sur franceculture.fr ou sur l'appli Radio France. Vous pouvez aussi nous écouter tout en nous suivant sur Blue Sky. Tous les jours, nous publions pour vous toutes nos sources et toutes nos ressources. C'est sur notre compte @sciencesqfd. Alors, qu'est-ce qui nous a permis de confirmer la présence de la bulle locale? Quel est son influence dans la formation d'étoiles et comment cartographier cette bulle? Nous sommes ensemble jusqu'à 17h pour répondre à ces questions. Mais on commence avec notre archive du jour. Les superbulles contiennent des particules de très haute énergie. Alors, que sont les rayons cosmiques? La question est posée en 1956.
Quelle est l'origine, monsieur le professeur, de ces rayons cosmiques?
Eh bien, c'est un des problèmes les plus difficiles. Le physicien commence par étudier les particules rapides, dont il détecte les passages ou les traces dans tous les appareils. Les étudier, ça veut dire reconnaître leur nature, leur vitesse, leur énergie, savoir si ce sont des électrons rapides ou au contraire des noyaux d'atomes, voir ce qu'ils produisent lorsqu'ils traversent la matière, quel est le résultat de leur collision avec les noyaux de l'atmosphère, etc., etc. C'est tout un travail de reconnaissance, très compliqué d'ailleurs, car aux vitesses extrêmement grandes de ces particules, pensez donc près de 300 000 km à la seconde, toutes se ressemblent. Et il faut mettre au point des méthodes très délicates pour parvenir à les différencier. Ainsi, on a d'abord cherché à savoir à quoi correspondaient ces traces. On a découvert que les particules rapides qui parviennent au sommet de l'atmosphère en se dirigeant vers la Terre sont des noyaux d'atomes. Il y a des noyaux d'atomes d'hydrogène, c'est-à-dire des protons, en grande proportion, et également des noyaux plus lourds, hélium, carbone, oxygène et jusqu'au fer. En étudiant la nature de ces noyaux et leurs proportions, on a trouvé que ces proportions correspondaient à peu de choses près aux proportions des différents noyaux dans la matière de l'univers.
Voilà, le physicien Louis Le Prince Ringuet, diffusé sur la RTF en 1956. Isabelle Grenier, l'étude des rayons cosmiques est liée en partie à l'étude des bulles chaudes.
Oui, tout à fait, c'est très important. À deux titres, d'abord parce que ces particules se promènent dans tout ce gaz interstellaire dont on va parler pendant cette heure, mais aussi parce qu'elles vont, j'en dirai un mot peut-être plus tard, elles ont peut-être une influence même sur l'évolution de ce gaz, sur l'évolution des galaxies en général. On commence vraiment à se poser ces questions-là, et comme on ne peut les attraper que sur Terre avec des mesures, comme le prince Ringuet nous disait à l'instant, suffisamment précises, on a besoin d'extrapoler ce qui peut se passer ailleurs, et donc suivant si ces rayons cosmiques de la bulle locale sont normaux ou pas complètement normaux, parce que la bulle a eu une activité de production particulièrement active, là, on a un petit souci, il faut qu'on en évalue. Ça, comme le disait le prince Ringuet, c'est un sujet long et difficile. Donc,
Katia Ferrière, ces gaz expulsés à haute énergie évoqués par le prince Ringuet, ces gaz-là ont un lien intime avec ces bulles chaudes?
Oui, donc le gaz dont il parle, c'est un gaz très chaud qui est produit par l'explosion de supernovae. Donc une fraction des étoiles, quand elles arrivent en fin de vie, c'est-à-dire lorsqu'elles ont brûlé tout leur combustible interne, elles s'effondrent, le cœur s'effondre et ça produit une grosse explosion, une explosion de supernova. Et cette explosion, elle va balayer tout le gaz environnant et le comprimer dans une coquille. Donc ça va produire une cavité dans laquelle on va trouver un gaz très chaud et cette cavité Jupiter va être entouré d'une coquille de gaz beaucoup plus froid. Et ça, c'est ce qu'on appelle un reste de supernova ou bien une bulle. Et lorsque, parce que maintenant on sait que les étoiles ont tendance à se produire, à se former, à se créer par groupe, eh bien, lorsqu'elles meurent les unes après les autres, elles vont agir de concert pour créer une super bulle, donc une super cavité. Et on pense que nous, on se trouve à l'intérieur d'une telle super cavité. C'est ce qu'on appelle la bulle locale.
On reviendra dans quelques instants évidemment sur les détails de ces formations de ces bulles, mais d'abord Isabelle Grenier, autre élément qu'il faut expliciter ensemble, c'est voilà ce gaz interstellaire. Qu'est-ce que c'est? De quoi est-il composé? Et pourquoi c'est aussi une notion importante quand on parle de bulles locales?
C'est effectivement très important et on est moins familier avec ce gaz qu'on l'est avec les étoiles et les planètes qui fournissent tout de suite des images dans nos cerveaux qu'on comprend bien. Ce gaz c'est la matrice même dont évoluent toutes les galaxies, se forment les étoiles, se forment les planètes. Donc c'est vraiment quelque chose qu'on voit partout, qui remplit, c'est la majeure partie de la matière visible de l'univers, je ne parlerai pas de matière noire, mais c'est la majeure partie de cette matière visible, et pourtant c'est une forme de matière très très inhabituelle pour nous. Il est excessivement dilué, il est beaucoup plus dilué que dans une chambre à vide, les chambres à vide les plus poussées qu'on puisse faire sur Terre. Si dans l'air qui est autour de nous en ce moment, vous avez 10 milliards de milliards de particules dans la taille d'un morceau de sucre, dans le gaz interstellaire, au lieu de 10 milliards de milliards, vous aurez un atome. Donc, et parfois même moins, il va falloir assembler des litres pour trouver un atome, et pas simplement des centimètres cubes. Donc c'est un gaz extrêmement dilué, et qui aux grandes échelles a tendance à s'organiser. Alors quand on parle de grandes échelles, il faut préciser, ce sont des centaines d'années-lumière, des milliers d'années-lumière, voire jusqu'à des millions quand on parle du gaz qui est entre les galaxies. Mais si on reste à l'intérieur d'une galaxie, ce sont des échelles de milliers d'années-lumière sur lesquelles le gaz a un mouvement cohérent, il tourne autour de la galaxie, il y a des ondes de compression qui se promènent, qui dessinent ces beaux bras spiraux qu'on voit sur toutes les photos. Mais aux petites échelles, comme vous le disiez au départ, c'est la pagaille. C'est une joyeuse pagaille, et c'est une pagaille qui est en partie alimentée par l'énergie des explosions des étoiles ou des vents des étoiles, on pourra y revenir dans un instant. Et cette pagaille, c'est quelque chose qui est le résultat de forces antagonistes. Vous avez d'une part la gravitation qui fait que les nuages de gaz ont tendance à se contracter, à s'effondrer ou à se recroqueviller sur eux-mêmes de manière inéluctable, puisque la gravitation, on ne peut pas l'empêcher. Et inversement, vous avez des grands courants qui brassent ce gaz, des courants d'air, je pourrais dire, si ce n'est que ce n'est pas de l'air, mais ces grands courants qui brassent le gaz dans tous les sens et qui apportent de l'énergie, qui empêchent le gaz de trop subir les effets de la gravitation. Si vous voulez un exemple, prenez un satellite autour de la Terre. Vous avez un satellite, si vous lui donnez assez de vitesse, il va rester en orbite autour de la Terre. Si vous ne lui donnez pas la bonne vitesse et que vous le freinez, il va aussitôt retomber sur la Terre. C'est un peu la même chose pour un nuage. Si un grand mouvement de vitesse, beaucoup d'énergie qu'on dit cinétique, le perturbe, il va empêcher la gravitation de faire tout son travail, de le recroqueviller jusqu'à aller former des étoiles et des planètes. Donc c'est vraiment une idée de jacuzzi, mais une idée de jacuzzi au ralenti. Ce qui sont les secondes des bulles de votre jacuzzi, ce sont des siècles et des millénaires pour les bulles le jacuzzi interstellaire.
Alors cette bulle chaude locale, aussi appelée local hot bubble ou LHB, Katia Ferrière, comment se représenter cette bulle locale? On parlait de jacuzzi, est-ce qu'il faut se représenter quoi? Une bulle de savon? Comment imaginer ce phénomène-là, cette grande structure?
Alors d'abord, il faut peut-être commencer par voir la galaxie dans son ensemble. Donc nous, on fait partie d'une galaxie spirale ou une galaxie disque. Donc, il s'agit d'une gigantesque galette d'étoiles qui contient de l'ordre de peut-être 200 milliards d'étoiles. Et ces étoiles sont donc plongées dans le milieu interstellaire. Alors, le Soleil, et quand je dis le Soleil, c'est le Soleil et ses planètes, donc tout le système solaire, se trouve pas au centre de cette galaxie, mais à une distance d'environ 25 000 années-lumière. Et nous, on se trouve aussi à l'intérieur de cette bulle, la bulle locale, qui, elle a un rayon, on l'a évoqué tout à l'heure, de l'ordre de peut-être 300 années-lumière. Donc, c'est une petite bulle par rapport à la taille de toute la galaxie. Et c'est une bulle dans laquelle on trouve un gaz qui est très chaud. Alors, très chaud, ça veut dire à peu près 1 million de degrés, et qui est très raréfié. Donc, Isabelle a donné un ordre de grandeur pour la densité moyenne du gaz interstellaire. Donc, c'est, mettons, une particule par centimètre cube, hein, par morceau de sucre. À l'intérieur de la bulle locale, la densité est peut-être encore 100 fois plus faible. Et par contre, la température est beaucoup plus élevée. Donc, dans la galaxie, on trouve ces petites bulles de gaz très raréfiées et très chauds. Et à l'inverse, on trouve des régions très denses, donc des nuages plutôt moléculaires, enfin atomiques et puis moléculaires, qui sont des régions beaucoup plus denses et beaucoup plus froides. Et ça, enfin, c'est dans ces régions, justement, que vont se former les étoiles. Et ça m'amène peut-être à parler déjà de tout le cycle de la matière dans la galaxie. Si vous partez d'un nuage interstellaire, donc qui est dense et froid, eh bien, il va contenir des petits grumeaux qui chacun vont s'effondrer pour former des étoiles. Et puis les étoiles, elles vivent un certain temps. Donc les étoiles les plus massives vont vivre quelques millions d'années. Les étoiles les moins massives, peut-être quelques milliards d'années. Donc vous voyez, c'est très variable. Et lorsque les étoiles les plus massives finissent leur vie, donc quand elles ont brûlé tout leur combustible, elles vont exploser en supernovae. Et ces supernovae, donc comme on l'a dit, elles vont créer des bulles de gaz très chaud, et qui seront entourées d'une coquille de gaz beaucoup plus froid et beaucoup plus dense. Et dans cette coquille, on va retrouver des petits grumeaux qui eux-mêmes vont finir par former des étoiles. Et le cycle recommence. Donc on a tout un cycle de la matière qui passe par des étoiles, des explosions de supernova, la formation de bulles, de superbulles et de coquilles qui vont former des nuages et qui les entourent.
Comme vous dites, Katia Ferrer, notre bulle locale a un rayon d'environ 300 années-lumière, mais par contre, Isabelle Grenier...
Ça peut monter jusqu'à 1000 dans certaines directions, parce qu'elle n'est pas du tout régulière.
Elle n'est pas sphérique.
C'est aussi... Oh non, elle en est même loin.
Mais alors, pour continuer à se représenter notre environnement cosmique, pour continuer sur cette représentation-là, Isabelle Grenier.
Oui, c'est assez difficile à décrire parce qu'elle est complètement de travers. Donc, elle est un peu difforme. Vous avez des excroissances, donc il y a une base qui est à peu près une boule qui a, avec le centre, le soleil n'étant pas au centre, donc d'un côté on est effectivement à 500 années-lumière d'une des parois, mais de l'autre côté on est plutôt à 1000-1200 années-lumière de la paroi, et surtout elle s'élève vers le perpendiculairement au disque de notre Voie lactée, elle s'élève vers le haut sous forme d'une espèce de cheminée. D'une cheminée qu'elle a probablement creusée, parce que on y reviendra peut-être, mais ces explosions de supernova apportent une énergie colossale et une énergie mécanique colossale. Il y a à la fois les éjectats et des ondes de choc qui sont délivrées et qui vont pousser le gaz sur leur route très fort, très vite. Quand je dis très vite, c'est 10 000 km par seconde. Alors ça ne vous dit pas grand-chose, mais ça veut dire que si je claque les doigts, je me retrouve sur la Lune. Donc, où je fais Paris... Non, peut-être pas. Paris-San Francisco en claquant du doigt et peut-être moins d'une minute pour aller sur la Lune. Donc ce sont quand même vraiment des vitesses colossales et ces boulets de canon vont pousser tout ce qui se passe dans leur environnement et du coup, là où il y a des zones de gaz plus ténues qui va moins résister, la bulle va pouvoir aller plus vite dans ces directions-là et au contraire, là où elle va tomber sur des nuages denses, elle va être un peu plus confinée, un peu plus retenue. Donc elle va finir par faire une boule avec des déformations un peu partout et notamment perpendiculairement au disque de la galaxie, là où le gaz devient de plus en plus ténu quand on s'élève hors du plan de la galaxie, du coup elle a pu courir plus vite dans ces directions-là et faire une espèce de cheminée qui s'ouvre ou non sur le halo de la galaxie, et ça, on va y revenir, c'est quelque chose de très important.
Avant d'arriver sur ce point, Katia Ferrière, à partir de quel moment s'est-on rendu compte de l'existence de ce cocon de gaz chaud qui nous isole en partie du reste du milieu interstellaire ?
Alors là, je dirais que cette découverte remonte aux années 70. En fait, il a fallu qu'on découvre ce gaz très chaud qui émet des rayons X. Et pour découvrir ces rayons X, on a évidemment dû construire des télescopes à rayons X et les amener au-dessus de l'atmosphère. Parce que les rayons X qui sont produits dans le cosmos, et en particulier dans la galaxie, sont absorbés par l'atmosphère. Donc, ils ne nous arrivent pas au niveau du sol. Donc, on a dû attendre les années 60, je pense, pour construire les premiers télescopes à rayons X. Et puis, c'est la décennie suivante, qu'on a vraiment découvert ce gaz très chaud. Et on s'est rendu compte qu'il était tout autour de nous et on l'attribuait donc à de l'émission thermique d'un gaz à peu près à 1 million de degrés. Et ce qui est intéressant, c'est que à peu près à la même période, on s'est rendu compte qu'il existait une cavité dans le gaz atomique. Donc le gaz atomique, c'est l'essentiel du gaz interstellaire. Dans les régions les plus froides, le gaz atomique a tendance à se recombiner. Donc deux atomes vont se combiner et former une molécule. Donc là, on a du gaz moléculaire qui est plus froid et qui est plus dense. Et à l'inverse, dans les régions plus chaudes, le gaz, enfin les atomes vont avoir tendance à perdre un ou plusieurs électrons. Et là, on va se retrouver avec un gaz ionisé, donc formé d'ions, des atomes qui ont perdu un électron, et d'électrons libres. Voilà. Donc l'essentiel du gaz se trouve sous forme atomique. On peut mesurer la distribution du gaz atomique, alors peut-être qu'on en parlera plus tard. Et en faisant ça, dans les années 70, on s'est rendu compte qu'il y avait un trou, il y avait une cavité dans cette distribution du gaz atomique. Et on s'est rendu compte que le volume de gaz très chaud correspondait à peu près au trou qu'il y avait ou à la cavité qu'il y avait dans le gaz atomique. Et on s'est dit, ben c'est simple en fait, il y a un trou dans le gaz atomique et il est juste rempli par du gaz chaud. Et ça, ça a été vraiment le début de l'histoire de la bulle locale.
Alors, quels sont les phénomènes cosmiques et les événements stellaires qui ont participé à la création de notre bulle locale ? Restez avec nous.
France Culture, la science CQFD, Natacha Triou.
Direct sur France Culture avec Isabelle Grenier et Katia Ferrière. Nous parlons de notre voisinage cosmique, nous parlons de bulles locales chaudes. On vient de voir qu'une bulle chaude entoure notre système solaire, qu'elle contient du gaz extrêmement chaud qui émet des rayons X. On vient de parler à l'instant des débuts historiques de cette découverte. Isabelle Grenier, on peut continuer cette historique-là.
Oui, en fait, à la fin des années 70, début des années 80, on pensait bien qu'on avait une cavité autour de nous et qu'elle était remplie de gaz chaud. Et on a mis du temps à percuter que c'était une zone anormale, parce qu'on connaissait pas si bien le milieu interstellaire à ce moment-là. Mais dès que ça a été trouvé, en fait, les gens se sont posés pendant une bonne vingtaine d'années, ça a été un gros débat, de savoir si on habitait dans du gruyère ou dans un phare breton. Le gruyère, c'est la version où ces bulles remplissent, étaient éparses et ne remplissaient pas beaucoup de volume dans la galaxie. Vous en aviez une de temps en temps. Et puis, à ce moment-là, la pâte du gruyère, c'était le gaz atomique dont Katia parlait il y a un instant et qui remplissait la majeure partie du volume de la galaxie. Ou si, au contraire, on était dans un phare breton, c'est-à-dire que le gaz brûlant qu'on voyait dans la cavité remplissait pratiquement tout le volume de la galaxie et que, de temps en temps, vous aviez des nuages denses, froids, où se forment les étoiles et qui étaient les pruneaux du phare breton. Donc ce débat, en fait, n'a été clos qu'assez récemment, depuis qu'on a les très grosses simulations sur supercalculateurs, où on a pu mettre la physique compliquée de tout ce qui se passe dans le milieu interstellaire, et de s'apercevoir qu'en fait, on a un jacuzzi, c'est-à-dire qu'on a à la fois un mélange de gaz et de bulles, et que tout ça passe son temps à changer et à échanger.
Oui, parce que dans ce gruyère, dans notre voie lactée, il y a d'autres bulles, mais on a plus de mal à les observer.
Oui, c'est difficile à observer de l'extérieur, parce que les rayons X des vieilles bulles sont facilement absorbés par le gaz interstellaire qui nous sépare de ces bulles, et donc on perd leurs traces assez rapidement. On voit très bien les bulles de gaz chaud des jeunes explosions, des explosions qui ont eu lieu il y a moins de 100 000 ans. Mais notre bulle ici a plutôt une dizaine de millions d'années, à peu près, une quinzaine peut-être, et ça ce sont des vieilles bulles qui ne font qu'un million de degrés, et l'émission de ces vieilles bulles a tendance à être très facilement absorbée, on a beaucoup de mal à l'observer.
Katia Ferrière, est-ce qu'on a une idée du nombre de super bulles que notre galaxie héberge?
Alors là, c'est difficile à dire. On aurait une idée du nombre de restes de supernovas, mais comme je disais, comme elles ont tendance à se regrouper, ça fait moins de superbulles et elles sont plus grosses. Mais je pense que... Alors Isabelle, tu vas me corriger si je dis une bêtise, mais de l'ordre... On est dans les milliers.
Oui, je pense à peu près.
Alors, parmi ces milliers de superbulles, il y a la nôtre. On a évoqué comment, en tout début d'émission, comment se formaient ces bulles. Hein, donc l'explosion d'une supernova qui entraîne une onde de choc. On a toute une structure de gaz qui, derrière le choc, va se comprimer, se refroidir. Mais alors, plus précisément, Katia Ferrière, comment notre bulle locale à nous s'est-elle formée?
Alors, déjà, la réponse n'est pas évidente parce que on a d'abord constaté qu'il y avait une bulle tout autour de nous. Alors après, on va essayer de voir, de repérer les associations d'étoiles ou les groupes d'étoiles qui pourraient avoir été à l'origine de cette bulle locale. Alors c'est pas évident parce que précisément les étoiles qui ont participé à la création de la bulle locale, elles n'existent plus, elles ont explosé. Alors des fois, enfin en général, elles laissent un petit résidu derrière elles qui est une étoile à neutrons. Ces étoiles à neutrons, elles sont très difficiles à détecter, mais de temps en temps, le champ magnétique très intense qu'elles possèdent est dirigé vers la Terre, enfin je simplifie, et ça fait un pulsar qu'on peut détecter. Dans ce cas-là, voilà, et je crois qu'il y a un exemple, j'ai oublié le nom, mais d'un de ses progéniteurs potentiels qui aurait laissé un pulsar qu'on a détecté. Donc, ce qu'on fait maintenant, c'est regarder autour du Soleil, on repère des groupements d'étoiles et on repère ceux qui ont perdu leurs étoiles les plus massives. Et puis, on mesure aussi les vitesses et on essaye de rebobiner le film plutôt en sens inverse et voir d'où sont parties ces étoiles, d'où sont partis ces groupements d'étoiles. Et ça nous donne donc une idée de l'origine possible de la bulle locale. Et là, on pense, alors il y a encore plusieurs théories possibles, mais on pense que le groupement d'étoiles qui serait à l'origine de la bulle locale, ce sera un groupement qui se trouve dans l'association Scorpion Centaure. On dit souvent en latin, mais voilà, Scorpion du Centaure.
Oui, c'est...
Et qui se trouve plutôt en direction du centre de la galaxie, à une distance de, alors en partie, bon, à peu près 500 années-lumière, je dirais.
C'est une hypothèse qui était en effet qui est issue de l'étude parue dans la revue Nature en 2022, où cette histoire de bulle locale a commencé il y aurait 14 millions d'années, où une supernova a créé une première bulle qui s'est étendue lorsque d'autres supernovas ont suivi, environ 15 supernovas qui se sont déclenchées sur des millions d'années, Isabelle Grenier.
Oui, en fait, il faut comprendre que parce que les étoiles naissent en groupe, les plus massives vont vivre le plus vite et exploser, ce qui fait qu'il nous reste quand même celles qui n'étaient pas assez massives pour exploser. Qui, d'ailleurs, si vous regardez, pour ceux qui ont la chance d'être dans l'hémisphère sud, nos auditeurs, de regarder les constellations du Scorpion et du Centaure qu'on vient de mentionner, vous avez encore beaucoup de ces étoiles très brillantes. Elles n'étaient pas assez massives pour exploser, mais elles sont encore là et ça fait un très beau spectacle dans l'hémisphère sud. Désolé pour nous, on n'est pas du bon côté de la Terre. Mais par contre, on peut se caler sur l'existence de ces étoiles qui restent pour essayer de remonter le film à l'envers. La difficulté, c'est que tout bouge. C'est que le gaz a bougé, que le Soleil bouge sur cette durée-là, et qu'en plus, les étoiles en question ont bougé aussi. Donc le film n'est pas si facile que ça à refaire, et pourquoi on fait des progrès en ce moment, et ce sujet redevient intéressant, c'est parce qu'on a eu ce satellite Gaïa, européen, qui a mesuré les positions et les mouvements des étoiles, de beaucoup de milliards d'étoiles autour de nous, avec une très grande précision. Et du coup, pour celles qui sont les plus près de nous, on peut rejouer le film à l'envers, beaucoup plus précisément. Et c'est ce qu'ont fait nos collègues en 2022 pour s'amuser. Et on trouvait donc probablement sur la quinzaine de supernovas qui ont été provoquées dans le groupe de Scorpius Centaure, ça a dû être à l'origine de notre bulle.
Tout bouge, comme vous dites, et Katia Faria, la bulle locale est encore en expansion aujourd'hui.
Alors là, c'est pas tout à fait clair. Peut-être qu'elle est toujours un peu en expansion, mais en tout cas, elle n'est plus en expansion rapide. L'expansion rapide, elle se passe vraiment dans les premiers milliers d'années, 10 000 ans peut-être. Et puis alors après, pourquoi est-ce qu'il y a cette expansion rapide? C'est parce que la pression à l'intérieur de la bulle est très très élevée suite à l'explosion, ou bien suite aux explosions. Et donc, la bulle s'étend très rapidement. Et puis, à mesure qu'elle s'étend, la pression à l'intérieur diminue, et il y a un moment où la pression intérieure va retomber au niveau de la pression extérieure. Et à ce moment-là, la bulle, elle continue encore un petit peu sur sa lancée, mais elle va s'arrêter assez vite. Et là, on pense qu'on a une bulle qui a à peu près atteint sa taille finale. Alors, elle va continuer à se déformer, la coquille qui l'entoure va continuer à se fragmenter, donc elle va continuer à évoluer, mais on pense qu'elle ne va plus beaucoup grossir.
En tout cas, ce qu'on comprend aussi dans ce ballet d'explosions et de gaz qui se structure à grande échelle, Isabelle Grenier, c'est que les bulles locales sont fondamentales pour la dynamique de la galaxie.
Absolument fondamentales, et d'ailleurs on a un problème sur lequel on pourrait évoquer un peu mieux, c'est qu'on a aujourd'hui les magnifiques images du télescope spatial JWST qui nous montrent que des galaxies déjà très bien formées, très actives, ont été développées quelques centaines de millions d'années après le Big Bang, c'est-à-dire très vite, et que de l'autre côté, 13 milliards 800 millions d'années plus tard, on a encore des galaxies qui se forment, on a encore des étoiles qui se forment, donc il faut quelque part accélérer très vite au début pour former du gaz, structurer le gaz et former des étoiles et des galaxies. ici et ensuite mettre tous les freins rouges pour que aujourd'hui l'univers n'ait pas tout consommé. Parce que la gravité est très puissante. Quand vous la laissez faire, elle devrait très rapidement structurer le gaz en toutes sortes d'étoiles, mais en étoiles. Il n'y aurait plus beaucoup de gaz à consommer. Donc, dans ce coup de frein, on a un sérieux problème, parce qu'on n'arrive pas à trouver les agents du coup de frein suffisamment efficaces. Alors, on a pensé aux explosions de supernova, et effectivement aux bulles qui vont remettre de la pagaille. Et quand vous mettez de la pagaille, le gaz va ne plus réagir aussi facilement à la gravité. Mais d'autre part, on a pensé aux vents d'étoiles aussi. Avant d'exploser, ces étoiles massives envoient des vents qui sont de l'ordre de 2000 km par seconde. Donc là, pour l'analogie, vous claquez vos doigts et vous retrouvez au milieu du Sahara plutôt que vous vous retrouvez à San Francisco. Mais enfin, c'est quand même déjà une vitesse importante. Mais ces vitesses sont plus faibles que l'explosion elle-même, mais par contre, elles durent plus longtemps. Elles peuvent durer pendant des centaines de milliers d'années. Alors du coup, cumulées, ça représente une énergie assez considérable aussi, et elles vont participer à la formation des grandes bulles aussi. Donc ce sont les deux vecteurs qu'on a imaginés pour ralentir la progression de la formation d'étoiles. Et le troisième mécanisme, c'est que justement, ces grandes bulles sont capables de s'ouvrir sur l'extérieur de la galaxie et du coup de faire des colonnes de gaz montantes qui vont s'échapper, de gaz chaud, qui vont s'échapper hors de la galaxie. Et tout gaz qui s'échappe de la galaxie mettra plus longtemps à former des étoiles.
Katia Ferrière, vous souhaitiez réagir ?
Oui, je pense. Donc, Isabelle a tout à fait raison. Je suis tout à fait d'accord avec ça. Il y a un élément que j'aurais bien aimé ajouter. Donc, ce qu'il faut comprendre déjà, c'est que la formation des bulles, hein, les explosions et puis la formation des bulles, peut jouer dans deux sens. D'un côté, ça va disperser le gaz et donc empêcher le gaz de continuer à s'effondrer. Mais en même temps, ça va aussi créer ces coquilles très denses qui font s'effondrer sur elles-mêmes. Et ça peut, au contraire, favoriser la formation des étoiles. Donc, ça peut jouer dans les deux sens. Oui. Mais l'élément que je voulais ajouter, c'est un peu ma spécialité, c'est le champ magnétique interstellaire. Et lui, il joue aussi dans les deux sens. Il peut favoriser la formation des étoiles, et là je peux expliquer pourquoi, mais il peut aussi limiter la formation des étoiles. Et pour comprendre ça, alors je sais, le concept du champ magnétique, c'est un concept un peu difficile, parce que c'est pas un truc qu'on peut voir, ou sentir, ou toucher, ou entendre, enfin, c'est quelque chose d'abstrait, mais... D'abord, la première chose à dire peut-être, c'est que le champ magnétique, c'est quelque chose qui est produit par un courant électrique ou par un ensemble de petits courants électriques microscopiques qui correspondent à un aimant. Et ce champ magnétique, il a un effet, il exerce une force sur toutes les particules qui sont chargées électriquement. Et dans le milieu interstellaire, il y a une grosse fraction des particules qui sont chargées, donc qui sont des ions ou des électrons. Et même celles qui sont neutres, elles sentent quand même indirectement l'effet du champ magnétique parce que elles interagissent sans arrêt avec les particules chargées. Il y a toujours des collisions entre les deux sortes de particules. Donc l'ensemble du gaz interstellaire sent l'effet du champ magnétique. Et en gros, pour résumer, l'effet du champ magnétique, c'est un peu de rigidifier le milieu interstellaire. On peut l'imaginer comme des lignes de champ magnétique qui seraient comme des élastiques sous tension, et la tension dans ces élastiques serait plus grande quand le champ magnétique est plus intense. Et vous voyez bien que si jamais, enfin, vous voulez bouger, vous prenez un petit nuage, quoi. Vous voulez le déplacer. En se déplaçant, le nuage va déformer les lignes de champ magnétique, donc déformer les élastiques. Et les élastiques, ils veulent juste revenir à leur place. Donc, ils vont avoir tendance à ramener le nuage qui se déplace à sa place. Et donc, tout ça, par exemple, dans le cas de la formation des étoiles, eh bien, pour former une étoile, on a du gaz qui va s'effondrer sur lui, sous l'effet de son autogravité. Eh bien, le champ magnétique, il va être entraîné dans cet effondrement, mais il va résister. Parce que, en comprimant le champ magnétique, on augmente la pression et ça résiste. Donc, le champ magnétique, il s'oppose un peu à la formation des étoiles. D'un autre côté, il aide la formation des étoiles parce que, alors ça, c'est un autre concept que j'essaie d'expliquer juste en deux minutes. Une étoile en général, ou bien on va dire un bloc de matière protostellaire, donc ce qui va finalement s'effondrer et former une étoile, c'est, mettons, un petit nuage qui est souvent en rotation. Dans l'univers, je dirais qu'à peu près tout tourne. Alors quand on a quelque chose qui tourne, lorsque ça s'effondre, ça se met à tourner de plus en plus vite. Bon, techniquement, c'est la conservation du moment cinétique. Et l'image, c'est la patineuse. Hein. Quand elle a les bras étendus, elle tourne à une certaine vitesse. Quand elle rapproche les bras du corps, elle se met à tourner plus vite. Eh bien, pour un nuage qui va s'effondrer, c'est un peu pareil. Quand il est gros, il tourne pas très vite. Et à mesure qu'il s'effondre et qu'il est en train de devenir une étoile, il va tourner de plus en plus vite. Le problème, c'est que quand il commence à tourner trop vite, on va atteindre ce qu'on appelle la barrière centrifuge. C'est-à-dire que la force centrifuge va devenir plus importante que la force de gravité. Et l'effondrement va s'arrêter. Mais grâce au champ magnétique qui s'enroule avec la rotation du nuage, eh bien, imaginez de nouveau ces élastiques tendus, on les enroule, il y a un moment, ils vont se prospéter, ils vont dire non mais stop, et ils vont freiner cet enroulement et donc freiner la rotation. Et donc ça va nous permettre de dépasser la barrière centrifuge et ça va permettre aux nuages de continuer à s'effondrer et de former des étoiles.
Donc, mais par rapport justement à cette formation stellaire, Katia Ferrier, je vous interromps parce qu'on va revenir dans quelques instants sur comment justement ce champ magnétique de la superbule cosmique, de notre superbule locale, a été cartographié en 3D pour la première fois en 2023. On y revient dans quelques instants, mais parce qu'il faut aussi préciser une toute petite chose avant d'arriver sur cette question-là, Isabelle Grenier, c'est que les étoiles se forment non pas dans la bulle, mais en bordure, là où le gaz a été expulsé à haute énergie.
Alors ça, c'est ça une des raisons pour lesquelles comprendre la bulle locale est très importante. C'est que l'histoire de la bulle et l'histoire des zones de formation d'étoiles autour de la bulle sont liées. Donc, en fait, comme le disait Katia, sur la paroi, vous avez un gaz beaucoup plus dense qui va se refroidir et qui va du coup se condenser davantage, se contracter pour arriver à la formation d'étoiles. Et pratiquement tous les sites de formation d'étoiles voisins qu'on étudie en long, en large et en travers, parce qu'on voudrait comprendre comment marche la formation d'étoiles, qui a beaucoup, beaucoup de problèmes dans notre compréhension encore, à lever, ces sites sont sur les bords de la bulle. Il y en a bien évidemment beaucoup plus ailleurs dans la galaxie, mais ils sont plus difficiles à observer parce qu'ils sont plus lointains. Et les mieux étudiés sont sur les bords de la bulle. Donc le problème de savoir comment ils ont interagi avec la bulle, justement, est-ce qu'ils ont été provoqués par l'onde de compression de la bulle et qui a déstabilisé les nuages pour qu'ils implosent sur eux-mêmes et qu'ils aboutissent aux grumeaux qui formeront les étoiles, ou au contraire, est-ce qu'ils ont été dispersés et qu'ils ont quand même réussi à former des étoiles? Ce sont des questions qu'on va pouvoir aborder maintenant qu'on a une meilleure carte.
Voilà les moyens de l'étudier, hein, c'est de faire en effet de la cartographie en étudiant sa forme, les gaz et les poussières. Comment ? Restez avec nous. I was dancing when I was 12. I was dancing when I was 12. I was dancing when I was out. I was dancing when I was out. I danced myself right out the womb. I danced myself right out the womb. Is it strange to dance so soon? I danced myself right out the womb. I was dancing when I was 8. I was dancing when I was 8. Is it strange to dance so late? Is it strange to dance so late? Myself into the tomb. Is it strange to dance so soon? Cosmic Dancer de T-Rex en direct sur France Culture, car nous parlons de notre voisinage cosmique. Nous parlons de la bulle chaude locale, une structure tridimensionnelle de gaz. On en parle avec nos deux invités du jour, Isabelle Grenier, professeure en astrophysique à l'Université Paris-Cité, chercheuse au CE1. Au sein du laboratoire AIM, et Katia Ferrière, directrice de recherche CNRS à l'Institut de recherche en astrophysique et planétologie de Toulouse. Notre système solaire est dans la bulle, hein, dans cette bulle locale. Alors pas tout de suite, il y est entré il y a quelques millions d'années, nous sommes en train de la traverser. On a dit déjà depuis le début de cette émission qu'il y a des bulles partout dans notre galaxie qui participent à la dynamique de notre galaxie. Isabelle Grenier, il y a cette étude parue récemment dans la revue Astronomy and Astrophysics. Voilà, par rapport à des tunnels, l'existence de tunnels, de corridors, de communication entre les bulles. Alors que se passe-t-il quand deux bulles se mettent en contact ?
C'est C'est une très bonne question auquel on n'est pas forcément très doué pour répondre. Je veux dire, les scientifiques en général, parce que la physique de ce gaz et de ses champs magnétiques est loin d'être comprise au niveau du contact de deux bulles. Heureusement, on a les simulations sur ordinateur pour dire un peu ce qui se passe, mais de temps en temps, elles rebondissent, de temps en temps, elles s'amalgament, de temps en temps, elles s'ignorent. C'est au cas par cas, ça dépend énormément des conditions. Et donc, c'est ça qui fait la richesse, et c'est ça qui fait le jacuzzi très, très, très animé et surtout très varié. Il faut comprendre que la complexité dans la nature vient des interactions entre les objets. Et la diversité vient de la rétroaction des phénomènes. Donc ici, vous avez des bulles qui rétroagissent sur leur environnement. Elles forment plus ou moins d'étoiles. Les étoiles vont former les bulles qui vont rétroagir. Et donc, c'est vraiment au cas par cas qu'on peut lever un petit peu ce qui se passe et essayer de trouver s'il y a des grandes lois derrière.
Katia Ferrier, en tout cas, l'existence d'un passage, de tunnel interstellaire qui semble relier la bulle locale à d'autres bulles, est-ce que ça offre pas une nouvelle perspective sur la manière dont les structures galactiques évoluent et interagissent ?
Mais ça rejoint un peu ce que Isabelle a évoqué plus tôt, donc il y a à peu près un quart d'heure, quand elle parlait du fromage du gruyère suisse, voilà. Je pense que c'est une question donc qu'on se pose depuis très longtemps, depuis le début. Au début, on imaginait qu'on avait des petites bulles isolées, et puis à un moment, on s'est rendu compte. Et en fait, ce sont des chercheurs américains qui ont compris que ce gaz très chaud se refroidit très lentement. Et donc que les bulles, une fois qu'elles sont là, elles existent pendant très longtemps. Et donc la probabilité d'intersection entre deux bulles augmente. Et donc ça remonte à une cinquantaine d'années. Hein. Depuis une cinquantaine d'années, on se pose la question, qu'est-ce qui se passe quand deux bulles interagissent ? Alors effectivement, ça va dépendre. Si on a deux bulles qui sont bien définies avec une belle coquille bien dense autour, bon, on aura une collision entre deux coquilles. Et là, ça peut faire des fragments qui vont devenir des nuages interstellaires. Par ailleurs, si la coquille n'est plus vraiment présente, le fait que deux bulles rentrent en collision fait que le gaz va vraiment filer d'une à l'autre. Et ça va donner, le résultat va donner une grosse bulle qui va tout englober. Donc, comme disait Isabelle, plusieurs scénarios sont possibles. Dans le cas de notre bulle, on voit effectivement ces tunnels. Et là aussi, on les connaît depuis... Donc maintenant, on les voit bien, ils sont bien identifiés, mais on les connaît depuis au moins 20, voire 30 ans. On les avait déjà repérés avant. Et on les comprend assez facilement. Hein, quand notre bulle approche la bulle voisine, qui s'appelle Loop One, pour elle, c'est plus facile de continuer à s'étendre dans une région qui était raréfiée à l'intérieur de la bulle voisine. Donc on comprend à peu près ce qui se passe. L'existence de ces tunnels nous donne juste une meilleure idée de la topologie des lieux autour du Soleil.
Sur cette topologie des lieux, et pour mieux comprendre cette bulle locale et son environnement, certains astrophysiciens ont donc essayé de faire des cartographies 3D de notre environnement proche. Alors comment cartographier ce voisinage stellaire ? C'est le sujet de notre reportage du jour. C'est avec vous, Loïc Dutoit, bonjour.
Bonjour Natacha.
Et aujourd'hui, vous avez rencontré une pionnière en la matière.
Oui, c'est une tâche difficile à laquelle s'attelle Rosine Lallemand depuis des décennies. Elle qui est chercheure CNRS émérite à l'Observatoire de Paris, au Laboratoire d'Instrumentation et de Recherche en Astrophysique, le LIRA. Paradoxalement, la cartographie de notre environnement proche est souvent plus difficile que celle de notre environnement lointain. Pour le comprendre, imaginez que vous êtes au sommet du Mont Blanc. Vous avez une vue imprenable sur la chaîne des Alpes, alors il vous est très facile de cartographier les montagnes alentours. Mais cartographier le Mont Blanc lui-même, c'est tout de suite plus compliqué. Il en va de même pour notre univers. Heureusement, depuis une vingtaine d'années, pour faire ces cartes de notre voisinage, on n'utilise plus les gaz, mais la poussière.
En fait, nos premières cartes, on a fait quand même aussi des cartes avec les gaz. Mais je ne vous les montre pas, elles sont moches. Non, en fait, disons qu'aujourd'hui, on a des tellement belles cartes avec les poussières. Ça, vous voyez, c'est toute la différence est là. Hein. À droite, c'est un schéma. Parce qu'avec le gaz, on n'a pas assez de mesures pour faire vraiment une carte calculée des nuages. Elle est schématisée. Alors par contre, ce qu'on fait maintenant, c'est cette image sur la gauche, tout ça c'est calculé. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on utilise des dizaines de millions d'étoiles sur lesquelles on observe plus du tout l'absorption du gaz, mais l'absorption par les poussières.
Peut-être qu'on peut définir la différence entre gaz et poussière.
Oui, alors dans un nuage interstellaire, Vous avez du gaz, ce sont des atomes et des molécules qui volent librement, hein. Et vous avez des grains qui ont la taille, des tailles microscopiques, hein, des atomes et des molécules, et vous avez aussi des grains de poussière qui ont des tailles beaucoup plus grandes. Et les grains de poussière et les atomes et molécules de gaz vont ensemble, enfin sont liés, c'est-à-dire une zone très dense en gaz et très dense en poussière.
Sauf que faire une cartographie avec du gaz, c'est beaucoup moins précis que faire une cartographie avec de la poussière.
C'est une question de quantité d'observation. Pour le gaz, il faut aller mesurer une raie d'absorption. Et mesurer une raie d'absorption, il faut un spectrographe. À l'époque, c'était une étoile par une étoile. Aujourd'hui, on fait des spectrographes multi-objets avec 2000 fibres, on fait 2000 étoiles en même temps, ça va déjà mieux. Mais quand même, l'avantage de se travailler sur la poussière, sur les grains, c'est plus facile. On regarde simplement la lumière dans plusieurs couleurs. Ça s'appelle la photométrie. Donc, on peut le faire sur beaucoup plus d'objets, on peut le faire de façon massive. C'est simplement de la couleur des étoiles, on déduit la quantité de grains de poussière qui a rougi l'étoile, c'est-à-dire qui a modifié la couleur de l'étoile. S'il n'y avait rien, si c'était vide, l'espace vide, vous la verriez jaune, par exemple, et en fait, si vous la voyez très rouge, c'est que les poussières absorbent beaucoup dans la lumière visible, mais moins dans le rouge. Si vous voyez l'étoile rougie, c'est qu'en fait, il y a eu beaucoup d'absorption dans le jaune, le bleu, etc. Donc vous en déduisez qu'il y a beaucoup de poussière, de grains de poussière, entre vous et elle. Ça, c'est un article récent, mais je crois que dedans, on avait mis... J'ai plein de trucs. Alors, peut-être, c'est mieux de regarder par là.
Ah oui, il faut regarder. Hop.
Voilà, par exemple, ici, c'est du 3 dimensions. C'est-à-dire qu'on reconstitue la localisation des nuages et leur densité en 3D. Mais pour représenter du 3D, c'est pas facile.
Eh ben, sur un écran en 2D, voilà. C'est compliqué.
C'est compliqué. Faire tourner pour voir des choses en 3D, c'est bien quand ce sont des solides, des billes ou des choses comme ça. Mais quand c'est des filaments, des nuages comme ça, il faut mettre des transparences et c'est pas facile à voir. Donc moi, ce que je fais, c'est des coupes. Je fais une section, comme si j'allais tailler dans l'espace dans un plan et je montre l'image dans ce plan. On fait une coupe où on veut, quoi.
D'ailleurs, là, ce qu'on a sous les yeux, c'est une coupe.
Alors,
ou pas
c'est une coupe qui est dans le plan le plus intéressant, qui est le plan parallèle à la galaxie. Pour vous donner une idée, le Soleil est au milieu. C'est une image des nuages dans un plan qui contient le Soleil. Le centre de la galaxie est vers la droite, ici.
Si on essaye un petit peu de la décrire. Alors, on a un gradient
blanches.
Avec des zones très, voilà. Très blanches des zones beaucoup plus foncées qui forment comme des taches un peu partout sur l'image.
Exactement. Alors, les zones blanches, c'est du vide, du quasi-vide, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de nuages. Et là, on voit quand même les bras spiraux, on voit le bras du Sagittaire ici, là. Et là, on voit ce qu'on appelle le bras d'Orion, le bras local. Donc, on voit que les concentrations de nuages sont alignées sur des espèces de lignes comme ça qui correspondent aux bras de la galaxie.
Les bras dont vous venez de parler, ce sont ces grandes régions denses et noires qui sont allongées ici.
Voilà. Et les zones blanches, ce sont les interbras où là, il n'y a pratiquement pas de matière. Maintenant, si on revient à la bulle locale, eh bien, elle est très, très petite. Là-dedans, la taille de la bulle locale, de ce qu'on appelle la bulle locale, c'est 200 parsecs, en disons à peu près. Et là, la carte totale que je vous montre, elle en fait 6000. Donc vous voyez que la bulle locale, c'est cette petite zone ici dans laquelle est le soleil, qui vous montre que le soleil, il est sur du blanc, il n'est pas sur du noir. Le soleil est en train de traverser une zone qui est vide de gaz et de poussière, enfin quasi vide, quoi. Le vide parfait n'existe pas. Hein. Et la bulle locale, vous voyez qu'en fait, elle est dans cette image, on voit qu'elle est allongée et elle rejoint d'autres bulles. Elle rejoint notamment cette énorme cavité ici, qui est vide de gaz. Bon. Et donc ça, c'est assez récent.
Cette étude-là, par exemple, j'ai pas vu la date, mais c'est
ça,
quoi
ça, celui-là, c'est 2022.
Et quel est l'élément principal que cette étude a ajouté à ce qu'on savait déjà?
Par exemple, actuellement, j'ai une collègue qui travaille sur une supernova observée en rayons X. Eh bien, maintenant, grâce à ça, on a regardé ensemble, on sait exactement dans quel contexte est sa supernova. Parce qu'avant, elle ne voyait pas dans quel environnement était cette supernova. Parce qu'elle, ça lui dit, Avec quoi interagit sa supernova? Est-ce qu'elle est dans un gros nuage? Est-ce qu'elle est dans le vide? Et en fait, il y a beaucoup de gens qui utilisent nos cartes, mais pour des utilisations extrêmement variées. Ça va des exoplanètes à, je ne sais pas moi, aux pulsars. Alors, on a une chance d'être dans cette bulle, parce que ça veut dire que la nuit, les étoiles, on les voit, enfin, elles ne sont pas absorbées. Ce que je veux dire, c'est
si on n'était pas dans la bulle locale, on verrait moins d'étoiles la nuit.
Alors, par exemple, vous savez qu'il y a ce qu'on appelle dark clouds dans la Voie lactée, qui ont des concentrations énormes.
Des nuages noirs, ça.
Des nuages noirs, voilà, des nuages noirs. Si on était dans un nuage comme ça, la nuit, il n'y a pas d'étoiles. C'est comme si vous étiez dans un épais brouillard, vous ne voyez rien. Et l'avantage d'être dans cette bulle, qu'on pourrait appeler, à un moment donné, on appelait ça la cheminée locale, c'est comme un trou dans les nuages, quoi, un trou de nuages, mais qui traverse de part en part la Voie lactée.
D'accord, donc si on se représente la galaxie comme le toit comme d'une maison,
voilà,
ça, ce serait une cheminée qui la traverse du bas en haut. Quoi.
Exactement, et qui a l'avantage, c'est que c'est comme une fenêtre ouverte en haut, vers le haut et vers le bas pour aller observer
d'autres
galaxies ou du fond cosmologique, ou, voilà.
Merci Loïc Dutoit pour ce reportage. Katia Ferrière, pour compléter ce qui vient d'être entendu, c'est une chance de vivre au cœur d'une super bulle. Ah, Katia Ferrière, je ne sais pas si vous êtes avec nous. En tout cas, nous
oui, excusez-moi.
Ah, non, vous êtes là, vous rassurez.
Oui, je suis bien là. Oui. C'est une chance, oui. C'est une façon de voir de l'astrophysicien, bien sûr. Bien sûr, il y a des nuages sombres qui absorbent toute la lumière des étoiles. Et d'ailleurs, c'est ça qui a fait comprendre qu'il existait un milieu interstellaire il y a un peu plus d'un siècle. C'est que c'est un certain Edward Barnard qui a pris les premières photographies du ciel où il voyait plein d'étoiles. Et sur ces photographies, il voyait des régions sombres. Alors, on aurait pu penser qu'il n'y avait justement pas d'étoiles dans ces régions, mais c'est très dur à imaginer. Et en fait, ce qui se passe, c'est qu'il y a un nuage sombre qui se trouve en avant-plan et qui va vraiment bloquer la lumière des étoiles qui sont derrière. Et donc, si nous, on se trouvait dans un nuage sombre, ben, ce serait partout pareil autour de nous, on verrait pas d'étoiles. Donc, ce serait dommage et on aurait beaucoup plus de mal à comprendre notre galaxie.
Isabelle Grenier, un mot sur le travail de Rosine Lallemand, qui travaille depuis 30-40 ans sur justement cette bulle locale et qui permet de mesurer, d'observer un peu plus précisément notre bulle locale.
Oui, qui a mis énormément de techniques différentes au point pour arriver à tracer ce milieu. Non, simplement, elle insiste sur les poussières parce qu'effectivement, depuis quelques années, on a des cartes entières du ciel avec l'émission des poussières et on peut utiliser du coup cette émission des poussières en fonction de la distance sur la ligne de visée d'une étoile pour essayer de voir combien il y a de poussière, donc combien il y a de gaz, parce que les nuages sont très très poussiéreux. Cette poussière, comme elle l'a dit, rougit la lumière des étoiles. Et ça, c'est un phénomène que chacun connaît très bien, puisqu'il s'agit du coucher du soleil. Si vous avez eu un coucher de soleil qui est souvent rouge, mais si vous avez eu l'explosion d'un volcan récent dans l'atmosphère qui a envoyé beaucoup de poussière dans l'atmosphère, ben vous avez pendant plusieurs semaines des couchers de soleil spectaculairement en rouge, et donc c'est parce qu'il y a plus de poussière sur la ligne de visée entre le soleil et vous. Donc on utilise le même principe. Plus il y a de poussière, plus c'est rouge, plus il y a de poussière, plus il y a de poussière, plus il y a de gaz.
Alors dans le milieu interstellaire, il y a donc du gaz, des poussières et du champ magnétique. Katia Ferrière, hein, vous nous racontiez, hein, comment vous travaillez sur le champ magnétique de la bulle locale. Vous nous avez déjà évoqué l'influence de ces champs magnétiques, hein, comme un facteur clé qui contrôle les mouvements du gaz dans l'univers. Mais pourquoi cartographier le champ magnétique de la bulle locale? Pourquoi est-ce quelque chose, une tâche importante?
Alors d'abord, je pense que c'est important parce que la bulle locale joue le rôle d'avant-plan par rapport à la galaxie. Donc si on veut comprendre la galaxie, on est obligé de bien comprendre l'avant-plan, de bien comprendre la contribution de la bulle locale et en particulier de la coquille qui l'entoure à l'émission qu'on observe. Alors, le champ magnétique, d'abord, il est responsable d'une émission qu'on appelle l'émission synchrotron. Et là, ce qui se passe, c'est que, vous savez, les particules énergétiques dont on parlait tout au début, en particulier les électrons très énergétiques, s'ils se trouvent plongés dans un champ magnétique, ils vont tourner autour des lignes de champ magnétique et produire un rayonnement qu'on appelle le rayonnement synchrotron. Et ce fait que, au voisinage de la bulle locale, donc au niveau de la coquille, il y a sans doute un champ magnétique qui est comprimé, il a été comprimé en même temps que le gaz, donc il est certainement plus intense. Et il y a certainement aussi un surcroît d'électrons relativistes, parce que en début de vie, on l'a déjà évoqué, la coquille est précédée d'une onde de choc, et à l'onde de choc, on peut accélérer des particules. Donc on pense que cette bulle apporte une contribution à l'émission synchrotron. Et c'est important de comprendre cette émission pour pouvoir la soustraire de toute l'émission synchrotron qu'on observe dans n'importe quelle direction du ciel, et pour arriver à isoler la partie qui vient de la galaxie proprement dite. Donc ça, c'est une première chose. Et puis, il faut voir aussi que le champ magnétique, non seulement il produit cette émission synchrotron, mais il va aussi modifier l'émission thermique de la poussière. Et ça, c'est parce que les grains de poussière, ils ont une forme plutôt allongée, et ils ont tendance à tourner autour des lignes de champ magnétique, mais avec leur grand axe qui tourne autour des lignes de champ magnétique. Et on voit, c'est comme si tous les grains de poussière étaient alignés. Et comme ils émettent une émission qui est plutôt polarisée suivant leur grand axe, l'émission thermique de la poussière, elle va être polarisée suivant, enfin perpendiculairement au champ magnétique. Alors je ne sais pas s'il faut expliquer le concept de polarisation.
Sur le fait que, enfin, par exemple, la lumière polarisée, c'est quand une lumière qui vibre dans une direction préférée, par exemple.
Voilà, tout à fait. Et ça, c'est quelque chose qu'on peut mesurer. Et là, ce qui est important ici, c'est que l'émission thermique polarisée des grains de poussière va contaminer les cartes du fond diffus cosmologique. Mmh. Donc, le fond diffus cosmologique, en fait, c'est la lumière la plus ancienne de l'univers. On ne peut pas remonter à avant l'émission du fond diffus cosmologique, parce que à l'époque, donc je pense que Isabelle l'avait évoqué, on a un genre de soupe avec des électrons, des ions, des photons, enfin tout ça s'est mélangé, donc l'univers est opaque, la lumière ne peut pas se propager à travers l'univers, donc on voit pas ce qui se passe à des temps antérieurs. Et à partir de cette époque, donc c'est à peu près 380 000 ans après le Big Bang, eh bien les électrons se combinent avec des noyaux, ça forme des atomes, et du coup, les photons de lumière, ils n'interagissent plus avec les électrons et ils sont libres de se propager. Et à partir de ce moment, l'univers devient transparent. Donc la première photo, la photo la plus ancienne qu'on a de l'univers, c'est ce fond diffus cosmologique. Et il se fait que, bon, nous ce qu'on voit, c'est ce qu'on peut mesurer sur le ciel, c'est essentiellement du fond diffus cosmologique, mais il y a une petite contamination, ou plus ou moins grosse quand même, par l'émission thermique des grains de poussière de la galaxie. Donc une fois de plus, c'est important de comprendre cette contamination, donc l'émission galactique, pour pouvoir la soustraire de ce qu'on observe et avoir vraiment le fond diffus cosmologique pur. Et ça, ça permet aux cosmologistes de faire évidemment des études sur les premiers moments de l'univers.
C'est-à-dire que ce polaroïde de l'univers, tel qu'il était à 380 000 ans, ce fond, ce tout premier rayonnement des premiers photons libérés, ce fond diffus cosmologique, il est pollué, Isabelle Grenier, par cette poussière justement qui vient contaminer l'émission produite.
Oui, parce qu'ils ont tendance à émettre dans les mêmes zones de longueur d'onde de la lumière, en submillimétrique. Et donc, il faut absolument séparer ces différentes formes de lumière. La lumière des grains de poussière n'est pas du tout le même processus que la lumière qui vient du fond cosmologique et de ces périodes reculées. Et donc, il faut séparer les deux. Donc, on peut séparer parce qu'ils n'ont pas tout à fait les mêmes couleurs. Mais quand on parle de polarisation, ça devient beaucoup plus difficile de les séparer. Or, il y a des diagnostics des premiers moments de l'univers qui vont venir de la polarisation de cette lumière fossile. Et donc, si on peut essayer de comprendre comment les poussières contaminent avec leur propre émission polarisée, on va pouvoir peut-être remonter à des instants beaucoup plus anciens encore que 380 000 ans.
Mais encore faut-il savoir ce champ magnétique de la bulle locale.
Donc, il faut vraiment savoir ce qui se passe avant. Alors déjà, il y a la bulle locale. Après, il faut sortir de la galaxie. Malheureusement, même avec des voyages interstellaires futurs, on n'est pas prêt de sortir de la galaxie. Donc, il faut apprendre à la gérer.
On arrive à la toute fin de cette discussion, Isabelle Grenier. Pour conclure, la compréhension globale quand même des superbulles, on l'a vu, reste quand même incomplète. Quelles sont, selon vous, les grandes questions scientifiques autour de ce sujet d'étude ?
Je crois qu'une des choses qui est vraiment importante pour nous de comprendre la bulle locale, c'est la normalité, est-elle vraiment différente ou est-elle une bulle standard, première chose, et en quoi elle modifie justement notre compréhension, parce que on comprend mieux et on observe mieux ce qui est près de nous. Mais du coup, on appuie nos théories sur ce qui est près de nous. Et si on appuie nos théories, par exemple la production des rayons cosmiques ou la propagation des rayons cosmiques dont le prince Ringuet parlait tout au début, ou l'explosion des supernovae, la formation des étoiles, sur des cas qui sont totalement anormaux parce qu'on habite dans une zone bizarre, on a quand même un gros problème.
En tout cas, dans quelques secondes, on retrouve la chronique d'Alexandre Morales. Mais merci Katia Ferrière, merci Isabelle Grenier.
Merci.
Tout de suite, on quitte notre système solaire à la recherche d'exoplanètes. C'est la chronique avec science.
Les Jupiters chauds sont-ils véritablement solitaires ? Aujourd'hui, je ne vais pas vous parler de divinités courroucées, mais bien de planètes et de grosses planètes, des géantes gazeuses, comme Jupiter, qui, je le rappelle, est la plus grosse planète du système solaire. On retrouve donc dans l'espace d'autres planètes de ce type, mais à la différence de notre Jupiter, celles-là orbitent très proche de leur étoile. Elles en font le tour en 1 à 10 jours, selon les cas. C'est cette grande proximité qui leur vaut le qualificatif de chaud, et ça, c'est une configuration qui n'a pas son semblable dans le système solaire, puisque la planète la plus proche du Soleil, c'est Mercure, dont la période orbitale est de 88 jours. Jupiter, elle, fait le tour du Soleil en 12 de nos années terrestres. Ces Jupiters chauds sont le premier type de planète extrasolaire, donc hors du système solaire, qu'on ait pu repérer. En fait, ça s'explique tout simplement par le fait que lorsqu'elles passent devant leur étoile, elles atténuent beaucoup la lumière qui nous en parvient, du fait de leur imposante taille et de leur grande proximité avec l'étoile. Elles sont donc relativement faciles à observer. Solène Ulmermol est chercheuse à l'université de Leiden, aux Pays-Bas, experte dans la détection et la caractérisation des exoplanètes.
Quand on regarde les systèmes exoplanétaires, on voit un tableau complètement différent. Et c'est très intéressant parce que ça montre qu'il y a une diversité dans les systèmes planétaires, dans leur configuration, le type de planète et où elles se trouvent en fait. Alors aujourd'hui, on a trouvé beaucoup de Jupiter chaud et on estime qu'environ 1% des étoiles qui ressemblent au Soleil, donc des étoiles de type solaire, ont une planète de type Jupiter chaud. Par contre, ce qui est intéressant, c'est de comprendre comment elles se forment, ces planètes, parce qu'elles sont extrêmement proches de leur étoile, mais on ne pense pas qu'elles se forment à cet endroit. Très proche de leur étoile, la température est élevée, et donc il y a peu de gaz, peu de poussière, et de ce fait, il paraît difficile de former une planète géante à cet endroit. Et donc, l'idée générale, c'est qu'on pense que les planètes géantes se forment loin de leur étoile, et puis migrent vers l'intérieur du système jusqu'à être extrêmement proche.
Ce que les astronomes pensaient jusqu'à présent, c'est qu'au cours de cette migration vers une région proche de l'étoile, cette planète de gaz aurait évincé les autres planètes de son système en les éjectant ou en les accrétant, c'est-à-dire en les assimilant en elles, ce qui ferait des Jupiter chauds des planètes très solitaires. Mais cette hypothèse est largement battue en brèche par une nouvelle publication dans la revue Astronomy and Astrophysics à laquelle Solène Ulmermol a participé. Dans ce papier, les scientifiques se sont concentrés sur le système stellaire WASP-132 dont on sait depuis une dizaine d'années qu'il contient une étoile centrale, bien sûr, mais aussi un Jupiter chaud qui en fait le tour en à peu près 7 jours. On l'appelle WASP-132b. On aurait pu se dire que ce type d'étoile est solitaire et s'arrêter là, mais après sa découverte en 2012, les astronomes ont remarqué des signes indiquant qu'il pourrait y avoir d'autres corps imposants qui orbitent dans ce système. Ils ont donc poursuivi les observations et révélé la présence de plusieurs nouvelles planètes. D'abord, une massive qu'on appelle Jupiter froid parce qu'elle est loin de son étoile, avec une période de plus de 5 ans. Mais aussi une planète plus petite, rocheuse, 6 fois plus massive que la Terre, qu'on appelle donc une super-Terre, et qui est encore plus proche que le Jupiter chaud puisqu'elle fait le tour de son étoile en 24 de nos heures. Cela remet en question l'hypothèse de la formation et de la migration de ces Jupiters chauds.
Le problème de ce système, c'est qu'en général, même s'il y a d'autres planètes au début de la formation planétaire, il n'y a qu'une planète qui survit, et c'est le Jupiter chaud. Et ça, c'est un mécanisme de formation qu'on ne peut pas avoir pour ce système WASP-132, puisqu'on trouve une petite planète interne, un Jupiter chaud, un Jupiter froid à longue période et peut-être même un autre objet à plus longue période. Et donc ce système, ça nous donne de très bonnes contraintes puisqu'il va falloir trouver un mécanisme de formation et d'évolution qui permet de conserver toutes les autres planètes dans le système. Alors ces mécanismes ont été théorisés déjà, mais là on montre que vraiment pour ce système en particulier, il nous faut un mécanisme plus calme et ce qu'on appelle notamment une migration dans le disque protoplanétaire. Donc quand les planètes se forment, elles se forment dans un disque de gaz et de poussière et on imagine que pour former le système planétaire de WASP-132, il a fallu que les planètes se forment à l'extérieur, dans les zones froides du système, mais qu'ensuite elles migrent dans le disque sans se perturber les unes les autres pour qu'aujourd'hui on arrive à avoir ces trois planètes qu'on détecte autour de cette étoile.
Ce qui signifie donc une migration assez tôt dans l'histoire de la planète. Par ailleurs, il reste encore à élucider le mystère de ce quatrième corps orbitant autour de WASP-132 qui pourrait bien être une naine brune, un astre dont la masse se trouve entre celle d'une planète et celle d'une étoile.
Merci Alexandre pour votre chronique et merci à vous pour votre écoute. Et merci à toute l'équipe de la science CQFD, Antoine Beauchamp, Eve Etienne, Noémie Maguet de Saint-Vulfran, Noémie Eliazor, Bruno Sansini, Loïc Dutoit, Ali Ruyer-Thompson. À la réalisation Olivier Bétard, à la technique aujourd'hui, Anthony Thomasson. C'était ce qu'il fallait démontrer à ce jour.